On voit qu'on a une belle avancée au niveau de la thérapie génique liée à un gène spécifique comme le REP65. Quelle est la difficulté de transposer cette, je vais dire, thérapie vers d'autres gènes? Parce que nos enfants ont un gène identifié dans une banque de données à l'USET de Gand. Quelle est la difficulté d'utiliser cette thérapie avec les camions FedEx? Mais de mettre un autre gène que celui du REP65. Merci.
Question très difficile, je pense. Je vais essayer quand même, je vais demander de l'aide de mes confrères, consoeurs. Qu'est-ce qui détermine finalement quel gène est le gène suivant pour développer un traitement? Il y a des gens qui me disent, mais Bart, est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que vous devez avoir de l'argent ou pas? Bien évidemment, l'argent est important. Donc, des investisseurs font ça et doivent investir. Et puis, finalement, les gens qui investissent, qui sont des investisseurs de risque, on peut dire, ouais, je ne suis pas certain si c'est le bon français, mais quand même, ils vont des investissements, ils vont faire 10 investissements. 9, ils vont perdre, 1, ils vont gagner d'une façon extrême et ils réinvestissent. Donc c'est vraiment un boulot. Hein, et je connais déjà, parce qu'il y a de petites boîtes qui ont une autre risque, qui développent des traitements géniques. Et puis il y a des investisseurs. Et les investisseurs me contactent et me demandent, Monsieur Leroy, pourrions-nous parler avec vous? On va vous payer. Hein? Ils ne me payent pas personnellement, ils payent mon hôpital parce que comme ça, je peux investir les fonds dans la recherche. Hein? Donc, je suis libre, je peux parler de façon ouverte. Je ne veux pas de l'argent de firme. Je ne suis pas contre les firmes, mais je ne veux pas m'enrichir moi-même par principe. Hein? Mais donc là, en fait, l'argent joue. Autre chose qui joue, c'est la fréquence. Et bien évidemment, pour la maladie de Stargardt, par exemple, à BCA4, qui touche beaucoup de personnes entre des âges de 5 et 20 ans, qui sont donc une génération très importante au niveau économique également, non pas seulement pour l'être humain, mais également au niveau économique, ça fait beaucoup de sens de développer quelque chose parce qu'il y en a beaucoup. Donc on peut aider les gens. Et on peut également, de façon économique, penser, voilà, ça fera une différence. Donc la fréquence de pathologie. Également, le fait si on a des modèles animaux ou pas. De l'autre côté, de plus en plus, on développe actuellement des modèles cellulaires. Donc, dans le temps, avec l'RP65, on avait un modèle d'un chien, ce qui est un chien est plus proche de nous que par exemple la souris, hein? Donc bien évidemment. Et donc c'était des modèles spontanés, découverts à Philadelphie chez les vétérinaires, ophtalmologues vétérinaires. Et donc par hasard, on avait un modèle que l'on pouvait traiter et voir la différence. Il y a plusieurs choses, mais de l'autre côté, je pense personnellement que pour beaucoup de gènes, on va finalement développer une thérapie génique. Et pour vous, ça doit être hier, pour le gène de vos enfants. Certainement, je comprends. Mais restons avec nous, ou restez avec nous, ça va se développer pour plusieurs gènes. Également, les approches, comme vient de dire Madame Nérix, ce sont des approches beaucoup plus génériques. C'est-à-dire, ça. Ce n'est pas tellement important de quel gène il s'agit exactement. Avec les cellules souches également, ça dépend, est-ce qu'on va faire une thérapie avec des cellules souches en provenance du patient propre? Alors là, il faut corriger in vitro, parce que la peau a les mêmes gènes que les yeux. Et donc la peau n'utilise pas le gène, les yeux l'utilisent. Donc là, en fait, si on change les cellules de la peau en cellules oculaires, il faut d'abord corriger in vitro. Ça peut se faire, ça se fait déjà. Et donc, c'est surtout avec les cellules souches, par exemple, faire la connexion avec ce qui reste dans la rétine du patient qui est difficile. Mais il faut juste un petit peu attendre, comprendre la pathologie. Et ce que moi je vois maintenant, il y a la voie qui s'ouvre maintenant avec le Luxturna. Tout d'un coup, les gens comme Andrea, Isabelle et moi, dans le temps, nous étions des exotiques, quoi. Lors des congrès, il y avait notre session à 8 heures le matin, quand il y avait le dîner de congrès, la soirée précédente, hein. Donc, il y avait les diehards, hein, qui étaient dans la salle. Et on était quand même, comme tu viens de dire lors de l'ASGOF, il y avait quand même nous, les orateurs et les amis des orateurs dans la salle. Hein? Maintenant, par exemple à Paris, le congrès U-Retina, c'était plein dans toutes les sessions de génétique, c'était plein. Et ceci est un effet Luxturna. Tout d'un coup, les gens se rendent compte du fait qu'il y a quelque chose. Bien évidemment, il y a des cow-boys qui disent bah, je peux traiter mes patients également, sans bien comprendre de quoi il s'agit exactement. Donc là, en fait, il faut se méfier d'avoir des gens qui sont des cow-boys. Hein? Il faut toujours aller au centre de référence, là où des équipes multidisciplinaires font les choses d'une bonne façon. Ça, c'est une réponse trop longue, je pense, hein, non?